Il est presque 8h.
Nous devons aller plus loin sur la question d'abord de la vaccination, parce que c'est ce qui nous protège du virus. Et vous avez raison de le dire, elle marque le pas.
Faudra-t-il la rendre obligatoire pour les soignants? La vaccination qui ne progresse plus assez vite. Jean Castex interroge tous les groupes politiques alors que le variant Delta accélère et contraint le Portugal à un nouveau couvre-feu. Une immersion dans ce journal. Nous verrons comment une unité hospitalière spécialisée tente de prendre en charge des mineurs étrangers. Ils sont à la fois isolés de leur famille et en proie à la drogue ou au réseau criminel. Et puis, aussi fort en championnat de VTT que sur les routes goudronnées du Tour de France, Mathieu Van Der Poel, actuel maillot jaune, est en train de se faire une belle place dans le cyclisme, à l'image de son grand-père, un certain Raymond Poulidor. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Parcoursup, la rentrée universitaire, la recherche. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, vient défendre ses dossiers. Et si l'on en croit Nicolas Cantenou, sa place au gouvernement aussi. Et rendez-vous 8h15. Ouais,
juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Il est 8h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Au départ, c'est un variant indien du coronavirus que l'on a renommé Delta. Delta comme la quatrième lettre de l'alphabet grec et comme la quatrième vague que l'on redoute partout dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé alerte déjà sur sa circulation en Europe. Le nombre de contaminations a d'ailleurs augmenté la semaine dernière, plus 10%.
Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour.
Le Portugal est plus particulièrement touché et les autorités n'ont pas le choix. Elles rétablissent des restrictions.
Oui, dès ce soir, il sera interdit de sortir de chez soi entre 23h et 5h du matin. La mesure concerne 45 municipalités, dont Porto et Lisbonne, la capitale. Il y a quelques semaines encore, le Portugal faisait partie des pays qui enregistraient le moins de cas en Europe, mais la situation s'est dégradée. Hier, on a recensé plus de 2000 nouveaux cas, une première depuis la mi-février. Et derrière cette reprise de l'épidémie, il y a le variant Delta devenu prédominant. Les jeunes sont les plus touchés, la vaccination ne leur a pas encore été ouverte. Le couvre-feu s'applique à tout le monde et il n'y a pas d'exception pour les personnes vaccinées notamment. Il sera par ailleurs interdit aux habitants de sortir de Lisbonne et sa métropole ce week-end. Ces mesures interviennent quelques jours après la fermeture anticipée des écoles dans le sud du pays, dans l'Algarve. Le gouvernement appelle à la plus grande prudence, mais il estime cependant que la situation est loin d'être aussi grave qu'à l'hiver dernier.
Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1. En France, pas question pour le moment de remettre un couvercle sanitaire que l'on vient de retirer, mais on sait aussi que le variant Delta ne s'arrêtera pas à la frontière. Alors pour empêcher sa propagation, la vaccination est plus que jamais mise en avant, mais elle progresse trop lentement, chez les personnels soignants en particulier.
Alors le Premier ministre Jean Castex envisage de rendre le vaccin obligatoire pour certaines professions. Il a envoyé un courrier aux associations d'élus et à tous les groupes parlementaires, Louis Dragnel.
Dans cette lettre, la crainte est clairement exprimée. Il est de notre responsabilité de préparer le pays à la possibilité d'un rebond épidémique à la rentrée. Le Premier ministre va droit au but. Il demande que soit posé le débat sur la vaccination obligatoire pour les soignants, mais aussi éventuellement pour l'ensemble des Français. Autre interrogation, faut-il instaurer une obligation d'isolement assortie de sanctions? Le ton est donc à la dramatisation, et s'il doit prendre une décision difficile, Jean Castex veut absolument parvenir à un consensus politique, obtenir le soutien des oppositions dans ce nouveau virage sanitaire. C'est tout l'objet de ce courrier.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Et on a ce matin un chiffre très révélateur dans ce contexte. Les trois quarts des EHPAD français ont été touchés par le Covid en 2020. 38% des résidents, soit environ 230 000 personnes, ont été infectées. La politique, c'est jour d'installation des conseils régionaux ce vendredi, avec un seul changement d'ailleurs parmi les présidentes et présidents, Huguette Bello, qui prend la tête de la Réunion, région qui a basculé de la droite vers la gauche.
Ces élections qui ont été un échec pour deux grands partis, La République En Marche et le Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen tient d'ailleurs son congrès ce week-end à Perpignan.
Et elle va devoir remobiliser ses troupes alors que des doutes et des critiques sur sa stratégie se font entendre. Claudia Bertram.
Si Marine Le Pen sera sans surprise réélue présidente du RN puisqu'elle est la seule candidate, le congrès sera plus agité que prévu. Des voix s'élèvent pour critiquer la stratégie de dédiabolisation et d'ouverture à des candidats extérieurs au RN. Le délégué du parti dans l'Hérault, Bruno Le Rognon, a démissionné au lendemain des élections.
La raclée électorale qu'on vient de se prendre et la manifestation que cette stratégie d'ouverture a ses limites. On oublie qu'il y a une soustraction à faire derrière tout ça. On perd nos militants, nos adhérents qui sont attachés à nos valeurs, à notre famille politique et qui ne s'y retrouvent pas dans ces personnages qui, du jour au lendemain, se trouvent tête de file de nos listes.
Le maire de Moissac, Romain Lopez, lui défend la ligne d'ouverture mais regrette les méthodes du parti.
Il y a une verticalité un peu infantilisante entre le siège en Nanterre et les fédérations. Et des fois, soit des consignes, soit certaines stratégies imposées, soit en contradiction avec les réalités locales.
Cette semaine, les critiques sont aussi venues de Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du parti. Le RN doit retrouver sa virilité et faire vivre ses thèmes fétiches, estime le père de Marine Le Pen. Dans l'entourage de la dirigeante, on sait que les discussions autour de la ligne s'inviteront ce week-end, mais on assure, hors de question de retourner en arrière.
Claudia Bertram, la politique encore et un homme dans la tourmente. Éric Dupond-Moretti, une vingtaine d'enquêteurs, des magistrats, des gendarmes sont restés dans les locaux de son ministère, le ministère de la Justice, à Paris pendant 15 heures de perquisition hier jusqu'à minuit. Éric Dupond-Moretti qui fait l'objet de soupçons de conflit d'intérêts entre son action au gouvernement et ses anciennes fonctions d'avocat.
Emmanuel Macron, lui, va inaugurer tout à l'heure à l'Élysée une exposition sur le fabriqué en France.
Oui, deuxième édition de cet événement qui promeut l'industrie, l'artisanat dans l'Hexagone. Alors on ne devrait pas y voir, cette année en tout cas, une boîte de Doliprane, mais ça finira par arriver puisqu'une usine de fabrication de paracétamol va être construite à Roussillon en Isère, où s'est rendu Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
La nouvelle unité de production verra le jour quasiment sur le site de l'ancienne usine de paracétamol Rodia, fermée en 2008. Un symbole fort de la volonté française de relocaliser ses productions essentielles. Pour pouvoir concurrencer les pays à bas coût, il a donc fallu une nouvelle approche, explique Gildas Barrère, numéro 2 de Sequence, entreprise française spécialisée dans les principes actifs.
Aujourd'hui, le marché du paracétamol est un marché avec une compétition qui vient essentiellement d'Inde, qui tire les coûts vers le bas. Donc concrètement, le travail a été de proposer des solutions pour avoir une unité plus automatisée qui permet de relocaliser tout en étant compétitif en Europe. C'est une unité de fabrication qui sera capable de produire 10 000 tonnes par an de paracétamol.
Ce qui équivaut à la production d'un milliard de boîtes par an. Cela permettra de créer 130 emplois directs et indirects. Coût total du projet, 100 millions d'euros, dont le tiers pris en charge par l'État. Preuve qu'il s'agit d'une priorité, explique Samy Sissaïd, sous-préfet à la relance en Isère.
À la sortie de la première vague, il était bien vu le fait qu'il y a beaucoup de médicaments courants dont on devait récupérer la souveraineté en France. C'est ce qui explique cette volonté sur ces secteurs stratégiques, de reprendre complètement une indépendance.
L'usine sera opérationnelle en 2023, elle fournira les marchés français et européens. Roussillon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
8h07 sur Europe 1, c'est un reportage exceptionnel que nous allons entendre ce matin, qui illustre parfaitement un problème extrêmement complexe, la gestion des mineurs isolés sur le territoire français.
Oui, les dernières données publiques disponibles évoquent 17 000 mineurs non accompagnés, principalement originaires de la Guinée, du Mali et de la Côte d'Ivoire. 2 à 3 000 d'entre eux seraient pris dans la délinquance, selon la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, réseau de drogue et de prostitution. Voici donc une immersion à l'hôpital Robert Debré à Paris, dans une unité bien particulière. Une dizaine de soignants rattachés au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent y prennent en charge des centaines de mineurs étrangers.
Alors il y a des addictologues, des psychologues, des éducateurs que Marion Gauthier a pu rencontrer en exclusivité pour Europe 1.
Tiens mon grand, tu vas te mettre dans une cabine ?
Le mot « maman » tatoué partout sur le corps. Le garçon, 18 ans, dont 6 aérés dans les rues, attend une radio des côtes. Il vient à nouveau d'être frappé. Après lui, une jeune fille apparaît les bras zébrés de scarification, 15 ans. Elle avale nerveusement des cachets blancs, ses jambes tremblent, le manque de drogue. Des enfants défilent ici, pris en charge après un séjour aux urgences, souvent pour une overdose ou des plaies ouvertes.
Et ils sont de plus en plus nombreux, dans des états de plus en plus terribles.
François-Henri Guillot coordonne l'aide à ces jeunes écorchés, les soins psychologiques, la réinsertion. L'éducateur s'efforce de créer une alliance, comme il dit, avec chacun d'eux.
Plus ils arrivent jeunes, plus ils sont rendus à la vie sauvage. Ils sont en hypervigilance en permanence. Vous claquez vos doigts comme ça, il va se redresser, il va regarder partout. Ce sont des enfants à qui on a volé leur enfance, leur adolescence. Et donc quand nous on les reçoit, c'est déjà leur rendre leur place et leur dire qu'on les voit, qu'on les écoute, qu'ils sont importants.
François-Henri rencontre Ali, 17 ans, qui a fui l'Algérie et la violence d'un père alcoolique avant de noyer ses angoisses dans le Rivotril, un puissant antiépileptique.
On va se voir souvent. La première chose à faire, c'est arrêter le Rivotril. Parce que le Rivotril, tu sais, c'est du poison, c'est la pire des drogues.
Direction le bureau du docteur Emmanuel Perret, psychiatre addictologue et chef de l'unité qui prescrit un autre médicament moins dangereux et dont elle réduira les doses progressivement.
je me substitue aux réseaux qui les ont mis sous l'emprise des produits en prescrivant des produits qui leur permettent de ne pas être en manque. Et s'ils ne sont pas en manque, ils vont pouvoir se poser dans des structures scolaires.
Et parfois ça marche, comme avec ce garçon arrivé à 14 ans, une balle dans le genou, sorti de la prostitution et de la toxicomanie, aujourd'hui sevré et en CAP plomberie.
On a fait la preuve qu'on pouvait les aider, que c'est pas vain.
Ces jeunes, c'est notre avenir, répète le docteur Perret. Elle espère aujourd'hui développer son unité et l'exporter en France, hors du nord-est parisien.
Un grand reportage signé Marion Gauthier qui est à retrouver dès à présent à la une du site Europe1.fr.
Un document exceptionnel, oui. L'actualité à l'étranger à présent avec la Trump Organization, l'entreprise de l'ex-président américain, mise en cause pour fraude fiscale.
Oui, le directeur financier de cette structure est accusé d'avoir dissimulé 1,7 million de dollars d'avantages en nature, des voitures, des appartements. L'avocate du groupe, Susan Natchalis, dénonce des poursuites politiques.
C'est vraiment une affaire sans précédent. Les bureaux des procureurs de New York et de Manhattan ont engagé des poursuites conjointes parce qu'ils n'aiment pas Donald Trump sur le plan politique. Je pense que vous pouvez tous voir ce qui se passe dans la presse, ce que vous avez vu l'année dernière. Nous allons gagner cette affaire, mais cette affaire n'aurait jamais dû être engagée. Ce sont des poursuites politiques, et les poursuites politiques se produisent dans les pays corrompus.
Susan Natchalis au micro Europe 1 d'Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Revenons en France avec ce petit point trafic. Pour aller de Vierzon jusqu'au Creusot en voiture, il faut habituellement un peu plus de 3 heures. Mais là, aujourd'hui, ce sera à vélo, puisque c'est l'étape du Tour de France la plus longue, d'ailleurs depuis 21 ans. 249 km, 3 départements traversés, le Cher, la Nièvre, la Saône-et-Loire. Et ce n'est pas que du plat. 5 cols au programme, notamment pour passer à travers le Morvan.
L'occasion, en tout cas, de revenir sur le parcours d'un homme dans cette édition, Mathieu Van Der Poel, maillot jaune pour la 5e journée consécutive, petit-fils de Raymond Poulidor. Son portrait avec Axel May.
Depuis dimanche, c'est le même nom qu'à chaque fin d'étape, le speaker du Tour de France appelle sur le podium.
Et le maillot jaune reste et demeure Mathieu Van Der Poel.
En France, les spectateurs ne savent pas tous encore qui il est. Chez lui, aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique, c'est une star. 4 fois champion du monde de cyclocross, cette discipline qui se déroule en hiver sur des chemins gelés ou boueux, avec des vélos de route qu'il faut parfois porter pour passer les obstacles. Si son illustre et regretté grand-père Raymond Poulidor n'a jamais revêtu le maillot jaune en 14 grandes boucles disputées, lui n'a eu besoin que de 2 étapes. Pour s'en emparer, sa maman Corinne Poulidor n'est pas si étonnée.
Je connais son caractère et quand il veut quelque chose, en principe, il l'a.
Avec son visage qui semble à peine sorti de l'adolescence, Mathieu Van Der Poel savoure.
Porter le maillot jaune, mon premier tour, c'est incroyable.
L'an dernier, il a remporté le prestigieux Tour des Flandres, comme son père, Adrie Van Der Poel, lui-même porteur une journée du maillot jaune.
C'est quelque chose de spécial dans une famille, donc on profite.
À moins d'un exploit, Mathieu perdra son maillot jaune ce week-end dans les Alpes et pourrait d'ailleurs ne pas finir le Tour de France afin de se préserver pour les Jeux de Tokyo où il espère devenir champion olympique de VTT.
Axel May, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 sur le Tour de France. La guéguerre entre milliardaires fans de l'espace, ça continue. Le Britannique Richard Branson annonce qu'il se rendra dès le 11 juillet dans l'espace à bord du vaisseau de sa société Virgin Galactic. Il devancerait ainsi de 9 jours à peine Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, avec sa fusée Blue Origins. Une fusée à bord de laquelle embarquera une femme de 82 ans, Wally Funk, qui dans les années 60 a fait partie d'un groupe de 13 femmes ayant passé les mêmes tests que les astronautes masculins dans le cadre du programme Mercury de la NASA, mais elle n'est jamais allée dans l'espace. C'est donc un rêve qui va se réaliser en tant qu'octogénaire, comme elle l'a dit hier aux côtés de Jeff Bezos.
Quand on descendra, qu'on atterrira dans le désert et que tu sortiras de la fusée, qu'est-ce que tu diras en premier ?
Oh, je dirais, chérie, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ils m'ont dit que j'avais mieux réussi les exercices et surtout plus vite que les garçons. Donc je suis allée voir la NASA plusieurs fois et je leur ai dit, je veux devenir une astronaute. Mais ils ne m'ont pas prise. Je ne pensais vraiment pas que j'irais là-haut un jour.
Wally Funk qui s'apprête à aller dans l'espace à 82 ans, comme quoi on peut être très jeune à cet âge-là, comme Edgar Morin qui aujourd'hui à 99 ans et 359 jours va faire une conférence à l'UNESCO.
Bientôt un siècle, Edgar Morin, c'est impressionnant. Bon, moi je signe, cela dit, pour monter avec que ce soit Jeff Bezos ou Richard Branson, celui qui va dans l'espace. Vous y allez,
Edgar
François
Morin.
Vous y allez, François Geffrier, vous dans l'espace?
Tout de suite, là.
Sonia, vous signez, vous? Un ticket pour l'espace? C'est facile de dire oui, on sait qu'on n'y va pas. Alors oui, allons-y tous ensemble.
Avec vous, on y va, Mathieu.
8h14 sur Europe 1 dans un instant. L'interview de Sonia Mabrouk avec Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. A tout de suite. Europe Matin.
matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal.
Bienvenue à vous et bonjour Frédérique Vidal.
Bonjour.
Parlons tout d'abord de Parcoursup, la plateforme d'affectation dans l'enseignement supérieur qui concerne, rappelons-le, des milliers de candidats. La phase principale d'admission se termine là, dans quelques jours, le 16 juillet. Quel bilan d'étape vous en tirez à ce stade ?
Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la procédure fonctionne extrêmement bien, mieux que l'année dernière encore. Et au moment où on se parle, avant même les résultats du bac, c'est plus de 94% des bacheliers généraux qui ont une proposition qui leur a été faite, et plus de 9 bacheliers sur 10 en général. Et puis, comme vous le disiez, on rentre maintenant dans la procédure d'accompagnement personnalisé. C'était vraiment la grande différence avec les procédures précédentes, avec un accompagnement de chaque lycéen qui n'a pas encore trouvé sa place, et je suis sûre qu'ils la trouveront tous, comme l'an dernier.
Eh ben, on va en parler. Pourtant, Madame la Ministre, chaque année désormais, cette plateforme charrie son lot de mécontents, de déçus, avec en toile de fond une forme de pénurie de place dans l'enseignement supérieur. Comment y remédier ?
Alors, ça fait 4 ans que tous les ans, nous ajoutons des places dans l'enseignement supérieur. J'en avais déjà ajouté 15 000 en début d'année en voyant venir les futurs bacheliers. Et c'est 19 000 de plus qui vont être ouvertes cet été. 5 000 pour les BTS et puis 14 000 dans les universités, dans les IFSI. Et donc, c'est au total presque 34 000 places supplémentaires qui seront créées cette année pour cette rentrée.
Donc attendez, 34 000 places supplémentaires sur toute l'année, et là vous nous annoncez ce matin 19 000 nouvelles places, et donc dans des filières en tension, c'est bien cela ?
Absolument, en fait, c'est l'idée. Hein. On voit arriver les besoins en début d'année, et là on commence à combler ces besoins en annonçant l'ouverture de places, et puis au moment où la procédure passe dans la phase dite complémentaire, eh bien on voit où sont les pressions, où sont les demandes, et on ajoute des places là où on en a besoin.
Bon, plus de places supplémentaires, mais Frédérique Vidal, l'autre très grande critique vraiment de ce système a trait au fait qu'il s'apparente à une loterie, bien loin du principe de méritocratie républicaine. On a énormément de messages, je vais vous en relayer un dans quelques instants. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
La loterie, c'était APB. APB tiré au sort. Parcoursup, c'est un projet d'orientation qui se construit grâce aux profs principaux, au lycée. Et je tiens vraiment à les remercier pour le travail qu'ils font. Et puis, c'est ensuite exactement le principe de la méritocratie, puisque il y a les attendus qui sont connus, il y a les dossiers qui sont examinés, et puis il ne faut pas l'oublier, il y a tout l'accueil des étudiants en première année à l'université, avec un accueil beaucoup plus personnalisé, ce qui fait qu'on a augmenté le taux de réussite.
Mais encore faut-il arriver et obtenir ce que l'on veut, malgré l'excellence de certains résultats et appréciations. Eh bien, beaucoup de candidats n'obtiendront pas leur choix sélectionné, ils le vivent comme une injustice. C'est cela, un coup de canif à la méritocratie.
Mais c'est pour ça qu'il y a cette phase d'accompagnement personnalisé, parce qu'effectivement, il y a des candidats qui ne font que des demandes dans des formations extrêmement sélectives, des classes préparatoires extrêmement sélectives.
Mais c'est normal quand ils ont de très bonnes notes et de très bonnes appréciations.
Bien sûr, c'est normal, mais peut-être que pour la première fois, ils se rendent compte qu'ils sont très bons. Mais il y en a qui sont encore meilleurs qu'eux, et ça, c'est le principe de la sélection dans les classes préparatoires.
Un message que je reçois à l'instant. Je vous ai dit, vraiment, Madame la Ministre, énormément de messages sur les réseaux sociaux une fois que l'on vous a annoncé cet exemple. Ma fille, bac scientifique mention bien, n'aura aucune fac de médecine en France. L'algorithme privilégiant la diversité ou d'autres critères à la qualité des dossiers, on est obligé de regarder à l'étranger. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ce serait horrible quand même de laisser filer nos talents.
Alors d'abord dire que la réforme de l'accès aux études de santé fait qu'aujourd'hui on peut accéder à ces études autrement qu'en s'inscrivant dans les facultés de médecine, et je pense que ça c'est évidemment important de le faire savoir. C'est simplement la deuxième année que c'est possible, hein. D'où l'idée de cet accompagnement personnalisé qui va permettre de donner toutes les pistes pour que cette jeune femme réussisse.
Personnalisé, faut y croire, vraiment un accompagnement individualisé avec la quantité de candidats.
Absolument, ouais. Puisque comme je vous le disais, hein, l'immense majorité a déjà une proposition. Et donc maintenant, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur se mettent au travail à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre. Et je vous assure, pour leur rendre visite tous les ans, c'est vraiment un accompagnement individuel.
Parce qu'il y a des attentes énormes, évidemment. Alors, la rentrée universitaire, Frédérique Vidal, elle se prépare. La situation sanitaire reste incertaine avec la menace du variant Delta. Est-ce que vous maintenez malgré tout une rentrée, alors je n'aime pas ce mot, mais en présentiel ?
Oui, vraiment, je crois que nous en avons tous besoin. Les étudiants en ont besoin, les professeurs, les personnels en ont besoin. On a besoin de se retrouver parce que étudier, ça n'est pas seulement suivre des cours. C'est aussi tout ce qu'il y a autour, toute la vie étudiante, la capacité à échanger. Et donc, oui, c'est la boussole, une rentrée 100% présentielle. Et voilà, nous sommes en train de la préparer dans les moindres détails.
Vous allez l'annoncer bientôt, toutes les modalités avec donc cet objectif de présence totale.
Oui, en fait, j'ai demandé à Françoise Moulin-Civil de faire une grande consultation ces deux derniers mois, à la fois avec les établissements, les représentants des personnels, des étudiants. Elle m'a rendu hier un rapport et donc la semaine prochaine, j'aurai l'occasion d'annoncer dans le détail les modalités, mais c'est vraiment du 100% présentiel qui est visé.
La vaccination des jeunes adultes est un vrai sujet, Frédéric Vidal. Environ, je crois, vous allez me dire si c'est le cas, 70% des étudiants seraient vaccinés. Et pour les 30% restants, comment aller les chercher ?
Alors c'est effectivement les premiers chiffres qui nous remontent sur les sondages qui ont été faits, ce qui prouve une fois de plus, comme je l'ai toujours dit, que les étudiants sont extrêmement responsables. Et ils savent que la pandémie n'est pas terminée et ils savent que pour avoir toutes les chances d'avoir une rentrée en présentiel, de pouvoir se retrouver, c'est essentiel qu'ils soient vaccinés, oui. Et donc ils le font.
L'argument est légitime, mais est-ce que vous êtes favorable à une vaccination obligatoire pour ces jeunes adultes ?
On lance une campagne de communication de manière à les inciter encore plus à se faire vacciner.
Vous savez déjà que ça ne suffira pas ?
Alors, regardez, en quelques semaines...
Tout le monde fait des efforts pour expliquer, évidemment, la légitimité
semaines,
de la vaccination.
En quelques semaines, 70% des étudiants, je crois que c'est quelque chose qui est remarquable et qu'il faut saluer. Et voilà, et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse sécuriser cette rentrée en présentiel.
Et par exemple, Frédéric Vidal, pourquoi des étudiants vaccinés accepteraient d'être pendant 2 heures, 3 heures dans un amphi avec des non-vaccinés ? La question est légitime.
Absolument, mais d'ailleurs, c'est bien...
Ça peut être un foyer de contamination géant.
En fait, la question, elle est légitime. Alors évidemment, quand on est vacciné, on se protège soi-même, mais on protège aussi les autres. Et ça, je crois qu'il faut évidemment le rappeler. Mais c'est un sujet sur lequel je suis sûre que, à la fois la campagne de communication, mais les étudiants entre eux,
mais l'aspect coercitif, vous ne l'excluez pas. Évidemment, là, on voit que le gouvernement ne l'exclut pas du tout pour les soignants. Vous y êtes favorable ?
Alors, le Premier ministre a annoncé qu'il allait lancer une consultation, effectivement, déjà pour les soignants, parce que c'est une vraie question, parce qu'on a un taux de couverture vaccinale qui, pour le moment, reste trop faible.
Mais il n'y a pas d'opposition pour vous, personnellement, par exemple ?
Il n'y a pas d'opposition, absolument. Je crois que c'est quelque chose qui se débat, qui se discute. C'est vrai que, après tout, se faire vacciner ou pas, c'est un choix personnel, mais il ne faut pas que ce choix influe sur la qualité de vie de l'ensemble des étudiants. C'est pour ça qu'une fois de plus, je les félicite de se faire vacciner.
Alors, lorsque le président de la République, Frédéric Vidal, s'alarme d'une société qui se racialise, lorsqu'il dénonce, Emmanuel Macron, la logique intersectionnelle qui fracture tout, c'est le même constat, finalement, que vous dressiez il y a quelques mois en parlant vous-même de l'entrisme de ces théories dans les universités.
Absolument, je ne pourrais pas dire mieux que ce qu'a dit le président de la République, mais ce que je constate, c'est que la société française, la nation française, est une nation qui porte encore cette idée que, quelle que soit son origine, nous pouvons tous avoir notre place dans la nation française.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cela ? Parce que le président lui-même reconnaît qu'il y a des théories qui veulent déconstruire ce dont vous parlez.
Oui, mais enfin, je crois qu'on peut se réjouir que la France ne soit pas l'Amérique. Et le débat qui est en train de s'ouvrir...
Pas pour tous.
Le débat qui est en train de s'ouvrir, qui est un véritable débat d'idées, qui est un véritable débat de société, je crois que c'est important que nous puissions l'avoir dans les conditions les plus sereines possibles.
Est-ce qu'on peut l'avoir également dans des instances comme le CNRS ? Puisque selon une chercheuse au CNRS, enseignante aux États-Unis, mais qui intervenait dans le cadre d'un séminaire de Sciences Po, la cuisine française serait teintée de blanchité alimentaire et représenterait même un outil de l'identité raciale dominante. Frédéric Vidal, chercheuse au CNRS, avec le logo Sciences Po, comment vous réagissez ?
Et enseignante à l'université de Connecticut depuis plusieurs années. Et c'est ce que je vous disais, la France, ça n'est pas l'Amérique. Quand je vois les réactions qu'ont suscité cette intervention, qui, à côté de ça, peut être... on a pris un extrait, moi je ne connais pas les travaux de recherche de cette personne.
Je l'ai vu intégralement, et l'extrait, je crois, en dit long sur ce qu'on vient de décrire.
Eh bien écoutez, je crois que ce qu'on voit en termes de réaction, c'est effectivement que la culture woke n'est pas encore la culture française, et c'est très bien comme ça.
Mais ma question, c'est est-ce qu'elle est infiltrée au CNRS et imbibée, est-ce que le CNRS est imbibé de ses idéologies ? CNRS auquel vous aviez demandé une enquête sur l'islamo-gauchisme.
Ce que je tiens à préciser néanmoins, c'est que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui existe en France, et que tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, une minorité certes, mais virulente comme d'habitude, s'en prennent à cette personne à cause de son patronyme. Ça, par contre, je le condamne fortement.
Cette personne
fortement.
Qui s'appelle Mathilde Cohen.
Et vraiment,
évidemment, cela, il faut le condamner. Évidemment.
Absolument, je le condamne. Et évidemment, elle a demandé la protection fonctionnelle et nous lui avons accordé.
Elle doit l'avoir, c'est tout à fait légitime et normal.
Absolument.
Mais ma question portait sur le CNRS.
Oui, mais on a le droit d'étudier tous les courants de pensée, y compris des courants de pensée qui viennent des États-Unis. Ça n'est pas le problème. La liberté académique, elle est essentielle et on peut tout étudier.
Mais où est-ce qu'elle s'arrête, cette liberté académique, quand elle devient une forme de prosélytisme? Est-ce que ça vous inquiète?
Eh bien, je renvoie pour cela à la charte européenne sur la liberté académique qui dit très clairement que la liberté académique, c'est la liberté de s'exprimer en tant que chercheur, en s'appuyant sur des travaux de recherche. La liberté d'expression, c'est la liberté de s'exprimer comme citoyen. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses.
On va conclure sur un domaine important qui est aussi le vôtre, Frédéric Vidal, la recherche. Le général de Gaulle disait « la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang ». Et dans ce domaine de la recherche, il y a une désaffection pour le doctorat. Il y a de moins en moins de doctorants en France par manque de valorisation. Quel sursaut pour renouer avec le goût de la grandeur, tout simplement?
Écoutez, le général de Gaulle a évidemment raison.
C'est une grande référence, je le reconnais.
Raison de dire ça, mais il a dit aussi que les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Et je crois que c'est exactement tout le sens de la démarche que nous portons avec le président de la République. Vous savez, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche forte, c'est aussi ce qui prépare l'avenir de notre pays. Et c'est ça, faire de la politique, c'est transformer, c'est préparer notre pays pour faire qu'il reste un grand pays. Nous sommes les premiers au monde en mathématiques, on ne le sait pas assez.
Et il faut le rappeler
parfois. Nous sommes
parfois,
les
oui.
troisièmes au monde, globalement, dans le classement de
on
Shanghai.
On a parlé de l'avenir du pays, c'est le plus important.
Bien
Permettez-moi
sûr.
De parler du vôtre. Vous ne serez plus là, la rentrée?
Écoutez,
la question se pose beaucoup en ce moment.
Je sais que c'est une question
et pour les ministres
qui agite probablement beaucoup les rédactions.
Oh, je suis sûre que vous y pensez.
C'est pas une question
le matin
qui m'agite.
Ou le vent.
Non, je vous assure, parce que sinon, il faut y penser tous les jours. Hein. C'est une décision du Premier ministre, une décision du Président de la République. Ça n'est pas entre nos mains. Ce qui est entre nos mains, c'est transformer le pays.
Merci Frédéric Vidal d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Et on se dit à bientôt, à la rentrée.
À bientôt, à la rentrée.
Sur Europe 1, en semaine ou le dimanche, pour approfondir les sujets. Et permettez-moi de vous remercier, Mathieu, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accompagner durant toutes ces années. Votre bonne humeur a été précieuse, votre goût de la camaraderie non fin, et j'insiste beaucoup dessus, est un atout précieux. Gardez-le intact, il vous symbolise, et à très bientôt.
Merci Sonia, merci beaucoup Sonia Mabrouk. Bon courage pour la suite, évidemment. Il est 8h29 sur Europe 1, à suivre la météo, les infos et le journal de l'Euro. Très bon réveil à toutes et à tous. Le journal de l'Euro, c'est avec vous, Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors Simon, aujourd'hui c'est le début des quarts de finale de la compétition et les bourreaux des Français, les Suisses, seront les premiers à jouer.
Nouveau défi de taille pour la Suisse qui sera opposée à l'Espagne. Alors la Suisse peut-elle être la surprise de cette compétition? Il faut dire que l'Espagne ne nous a pas éblouis jusqu'à présent et semble après tout à la portée de la natie. L'entraîneur des Suisses, Vladimir Petkovic, lui donne le ton.
Ce que nous avons montré en tant qu'équipe jusqu'à présent est très bon. Mais à partir d'aujourd'hui, nous devons redevenir affamés et avides si nous voulons atteindre la phase suivante. Nous savons que l'Espagne sera un adversaire redoutable, mais nous voulons réussir et passer au prochain tour.
Et le coup d'envoi de ce premier quart de finale à 18h.
La deuxième affiche du jour est digne d'une finale, on peut le dire, hein, c'est Belgique-Italie.
Match commenté en intégralité par nos envoyés spéciaux sur Europe 1. Un match entre deux favoris, deux équipes qui aiment avoir la maîtrise, qui aiment avoir le ballon et dicter le rythme d'un match. Voilà pourquoi ça va être intéressant tactiquement. Alors le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul ballon, et donc la question est de savoir qui aura cette fameuse possession, quelle équipe forcera l'autre à changer ses plans, à jouer autrement. C'est l'enjeu soulevé par le milieu belge Axel Witsel.
Ouais, ça, c'est un gros quart de finale, donc après c'est normal que les deux équipes, que ce soit nous l'Italie, on a envie d'imposer notre jeu. Après, comme je l'ai dit, c'est une équipe où ils sont vraiment forts collectivement. D'ailleurs, c'est une équipe qui m'a le plus plu, en tout cas durant la phase de poule, quand je regardais les matchs. Nous non plus, on n'est pas là pour s'adapter à qui que ce soit. On doit jouer notre jeu et être courageux. On a vraiment tous l'envie de faire un gros match.
Simon, Tous ces matchs, eh bien, ils vont se jouer avec du public, alors qu'on le racontait dans nos journaux, les craintes autour du Covid se renforcent.
Craintes hein, autour du potentiel rôle de super contaminant de l'Euro. Près de 2000 Écossais ayant assisté à un événement de la compétition en Angleterre ont été testés positifs. Des centaines de cas chez les supporters belges et finlandais. Tout cela inquiète notamment en vue des demi-finales et de la finale hein, qui se joueront avec 60 000 spectateurs à chaque fois du côté de Londres. Nos estimations, dit l'OMS, hein, nos estimations modélisées prévoient une tendance à la hausse des cas de Covid dans les villes hautes, car les supporters se réunissent bien sûr dans les stades, mais surtout à l'extérieur. L'UEFA n'a pour le moment pas choisi de changer son dispositif.
À suivre, donc. Merci Simon Rubin, c'était le journal de l'Euro sur Europe 1. Il est 8h36. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
Tous les matins, vos réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De nombreux Français vont prendre leur voiture pour partir en vacances et vous allez nous aider ce matin à lutter contre la somnolence au volant.
Eh oui, on a tendance à l'oublier, mais un départ en voiture, ça se prépare et le trajet nécessite une attention assez soutenue durant de nombreuses heures. Sauf que la somnolence au volant, eh bien, serait responsable de 20% des accidents de la circulation en Europe. Et vous vous en doutez, mais la somnolence est à différencier de la simple fatigue. La somnolence, eh bien, va être responsable de micro-sommeil de 1 à 4 secondes. Sauf que 4 secondes à 130 km/h, eh bien, c'est 140 mètres en plus de parcouru avant de freiner, sans parler de vos réflexes qui vont être ralentis, voire absents, et même de votre champ visuel qui va être réduit un peu à la manière d'un tunnel.
Alors on évite de partir en étant fatigué.
Oui, évidemment, évitez à tout prix de partir en plein milieu de la nuit ou très tard le soir, car on estime que prendre le volant après une nuit blanche eh bien, présente autant de dangers que de conduire avec une alcoolémie de 0,9 g par litre. Il faut donc prendre le volant en étant reposé, après une bonne nuit de sommeil, et puis une fois au volant, soyez attentifs aux petits signes de fatigue, comme des bâillements répétés, des clignements de paupières prolongés ou un conducteur qui se tortillerait sur son siège. Tous ces symptômes doivent imposer une seule chose, se reposer.
Alors d'où l'importance aussi de faire des pauses régulièrement.
Oui, évidemment, et franchement, n'hésitez pas à faire des micro-siestes, même de 10 minutes. Cela sera beaucoup plus efficace que de prendre un café qui aura juste tendance à vous exciter. Autre conseil, soyez très vigilant entre 13h et 15h en journée et entre 2 et 3h du matin la nuit, car ce sont les deux moments où la vigilance est la plus basse chez tout le monde, quel que soit votre sexe ou même votre âge. Enfin, attention avec l'alimentation, un repas très riche et très calorique, comme le fameux triangle jambon mayonnaise, les chips et les sodas, eh bien, c'est associé à plus de somnolence au volant. Et vu qu'on parle de route, la mienne prend une direction différente, l'aventure s'arrête avec Europe 1, et je tenais à vous remercier pour cette saison. J'espère que vous aurez pris plaisir à apprendre des petits trucs autour de la santé en ma compagnie.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, et je continuerai quand même à prendre ces petits sandwichs triangles sur l'autoroute. Merci Jimmy, on vous retrouve à 15h pour la dernière de 100 rendez-vous avec Mélanie Gomez. Il est 8h40. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous nous dites ce matin, Fanny, que la musique pourrait nous aider à devenir plus écolo ?
Oui, là, on vient d'entendre Angélique Kidjo et Sting. Ouais. Voilà, c'est ça, dont le clip a été réalisé par Yann Arthus Bertrand. Alors oui, je voulais faire écho à la chronique du docteur Jimmy Mohamed qui nous le disait lui-même il y a quelques semaines. La musique a une forte influence sur l'humain au point de modifier notre humeur, de nous détendre et de nous rendre heureux en permettant, il le disait, à notre cerveau de sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Et alors, je pose la question ce matin, et si la musique pouvait de la même manière stimuler l'amour de la nature et nourrir l'envie de la protéger.
Vous dites qu'il y a des morceaux qui ont un fort pouvoir de sensibilisation.
Bah oui, il y en a plein. Prenez par exemple « Il faut que tu respires » de Mickey 3D, ah oui. Le célèbre hymne de nos campagnes, de Trio ou encore « Je suis un homme » de Zazie qui donne à réfléchir sur la condition humaine et sur notre place dans la biosphère. Il y a aussi « Muse »,« Isolated System » ou encore « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah. Tandis que certains dressent un constat peu reluisant et pessimiste sur l'avenir de la Terre, d'autres lancent au contraire une invitation à passer à l'action.
On mettra les références de ces morceaux en ligne sur Europe 1.fr. Alors à l'instar du reste de la société, vous nous dites, Fanny, que le monde de la musique s'engage de plus en plus.
Mais oui, carrément. Alors, musicalement, à travers des paroles engagées, mais aussi dans le comportement et mode de vie, et ça c'est très récent, des chanteurs eux-mêmes. On peut citer le collectif d'artistes engagés baptisé The Freaks, qui compte une soixantaine de personnalités comme Calogero, Mathieu Chédid, Nolwenn Leroy, Yael Naïm, Zazie, et même des humoristes comme McFly, ça c'est plus étonnant. Tous s'engagent à adopter de nouveaux comportements pour lutter contre la surconsommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger la biodiversité en utilisant leur notoriété pour faire bouger massivement les lignes. Cette meute d'artistes a été constituée par Sam Efra, vous les connaissez, du groupe de rock les Chaka Punk, avec l'appui de la fondation Nicolas Hulot. Fra, qui avait sévèrement marqué les esprits en prenant la parole aux Victoires de la Musique en 2019. C'était sur France 2, sur France 2 et en direct.
On a un petit problème technique. On ne va pas pouvoir faire le morceau exactement tel qu'on l'avait prévu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste la fin du monde. Alors, rassurez-vous, c'est pas la fin du monde ce soir. Peut-être qu'on va passer pour des cons, peut-être qu'on va torpiller notre carrière ce soir en direct sur France 2. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est tous des cons. Et c'est parce qu'on est tous des cons que c'est la fin du monde.
Je l'aurais pas dit de la même manière, j'aurais peut-être fait ça un peu plus soft, mais Fra, qui a eu quand même beaucoup de courage pour prendre la parole en plein prime, mais il nous invite à agir maintenant, Do It Now, que vous entendez, c'est d'ailleurs la parodie de Bella Ciao, cette musique qui est devenue l'hymne des marches pour le climat et qui, j'espère, vous restera dans la tête tout l'été. We've got to solve it, get involved and do it now, now.
Merci Fanny Agostini, quelle finale, notre planète en musique avec vous. Merci Fanny Agostini, il est 8h44, très bon réveil à toutes et à tous et vous l'attendez. Tiens, branchez-vous sur europe1.fr pour le voir aussi en vidéo ou alors écoutez évidemment Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1, vous sentez les vacances arriver. Bon, alors Julie est installée avec nous, on attend Nicolas Canteloup.
C'est presque Nicolas Canteloup ce matin.
C'est presque la revue de presse. Non, d'un mot vous dire que beaucoup de vos programmes partent en vacances aussi et qu'après la matinale, on va retrouver évidemment Philippe Vandel pour une spéciale dernière avec le bilan de l'année, la comédienne Doria Tillier parmi les invités, puis la dernière d'Anne Romanoff aussi à 11h tout à l'heure. 8h47, ça c'est ce qu'on appelle comblé en attendant que ça arrive. Alors Nicolas est là, mais plus Julie. Si, c'est bon, on y va. 8h47.
Julie. Nicolas Canteloup. Allez, Mathieu Béliard est toujours avec nous. Hein.
Et oui, mes chers amis, chère Julie, bonjour à vous. Voilà, c'est ma dernière matinale de la saison. C'est vrai que j'ai la pression. Bon, en même temps, je vais vous dire une chose. Si je la rate, je ferai quand même Mbappé. Je ferai un tweet d'excuse. Bon. Tiens, d'ailleurs, Stéphane Bern est resté en studio. Moi, je reste. À plus dans le bus. Je fais chat perché avec Mathieu Noël. Bon, j'ai déjà plein d'expressions pour l'année prochaine. Faire chat perché, qui est synonyme de sauver son Luc. J'avais aussi pour vous l'expression se faire ken. En espagnol, on dit perdare son trabaro. En anglais, c'est goodbye the morning. Et pour revenir sur l'expression sauver son Luc. Pour sauver son Luc, il faut être malin, mon frère Mathieu. Enfin, il ne faut pas parler de, je ne sais pas, de sujets qui, je ne sais pas, de Chamerois, de Cohen, de Clark, tout ce qui commence par C. Très bien. J'ai retenu la leçon. Très bien. Alors, l'info principale, allons-y, c'est Jade Lagardère qui a été condamnée pour avoir trouvé son permis de conduire dans une pochette surprise. Mais non, mais t'es con ou quoi? Tu vas tous nous faire virer. Faut pas parler de ça. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu parles de rien. Voilà. Tu parles d'actu, mais d'il y a 2000 ans. Hein. C'est ça d'ailleurs mon petit secret. C'est, pour durer, c'est de parler de l'histoire. C'est pour ça que j'appelle ça secret d'histoire. Ah, ouais. À propos d'histoire.
Ah tiens, Jean-Pierre.
Ouais, c'est moi. Je suis là. Déjà, j'étais déjà là, souvenez-vous, il y a 2000 ans. Mon plus grand regret en tant qu'intervieweur, c'est
c'est qu'à 10 jours près, j'ai loupé l'interview de Jésus. Mais, j'ai eu Judas. Et depuis, j'en ai interviewé des Judas. Mais moi, j'ai toujours gardé ma ligne éditoriale, tu sais, Mathieu. La liberté, liberté, y'a que ça de vrai. Mais putain, et Carlo, arrête de parler de la mammonia. J'ai jamais mis Yesley là-bas. Et je pouvais pas y mettre les pieds, c'était un travaux.
Allez, on en vient maintenant à la perquisition au ministère de la Justice.
Ah, toi, Julie, j'oublierai jamais. Il y a 2000 ans, j'ai engagé Julie. On avait Cabrol, d'ailleurs, qui était en stage de 3e ici.
Oui, ben
m'en
bon.
Souviens.
Non, allez, merci Jean-Pierre. On revient donc sur la perquisition au ministère de la Justice. Éric Dupond-Moretti est soupçonné de conflit d'intérêts.
Oui, pardon. Excusez-moi, je m'immisce. Pardon, m'immiscer. J'adore m'immiscer.
Nicolas
pardon.
Sarkozy, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Non, je voulais juste dire... À monsieur Éric Dupond-Moretti, qu'une première perquisition, c'est toujours impressionnant quand on n'a pas l'habitude, c'est bien normal. Ça doit être l'état d'esprit dans lequel il est. Mais en fait, c'est pas grand-chose. Moi, j'en suis à la 132e perquisition. Et je vais vous dire une chose, je sens plus rien. Parfois, c'est même pratique, je vais vous dire, parce que moi, ma petite Julia, elle veut jamais ranger sa chambre. Eh bien, avec les perquisitions, c'est la police qui le fait à sa place. Ils viennent et il n'y a plus rien.
Voilà. Merci, Nicolas Sarkozy. Didier Deschamps a donc décidé de rester à la tête de l'équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Bonjour, Didier.
Oui, effectivement, oui. Bon, mais écoutez, vous l'avez lu dans la presse et j'ai décidé de rester. Bon, car vous le savez, quand il y a une bonne ambiance au travail, c'est vrai qu'on a, on a envie de prolonger. Hein. Bon, hein, n'est-ce pas, Mathieu?
Ouais, ça va. Hein.
Je sens un peu la même ambiance à Europe 1 que dans le vestiaire de l'équipe de France.
On dit quand même que la raison de la défaite, bah, ce sont les relations qui étaient tendues en interne.
Hein, non, écoutez, il ne faut pas exagérer. Franchement, en équipe de France, l'ambiance est au beau fixe. Hein. Bon.
Ah bon?
À part Kylian Mbappé qui déteste Giroud qui est Benzema qui peut pas saquer la mère de Rabiot qui exècre tout le monde sauf son fils qui aime pas les coiffeurs, et moi je vais vous dire une chose, qui peut plus supporter personne.
Bah alors pourquoi vous avez pris la décision de continuer, Didier?
Enfin Julie, pour une raison évidente.
Bah oui, vous voulez pas partir sur une défaite, c'est ça?
Non, pour emmerder Zidane.
Ah, j'avais pas pensé, oui.
Voilà, donc Zidane, si tu reprends, tu reprendras l'équipe de France, mon cher Zizou, tu en reprendras un jour, c'est sûr, mais le plus tard possible. Je vais te dire, Zizou, c'est comme acheter la maison de Line Renault en viager. Faut être patient.
Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature à la présidentielle. Il précise qu'il ne croit pas à l'union de la gauche. On va voir ce qu'en pense tout de suite Pascal Pro et ses invités.
Bonjour à tous, bienvenue sur CNews Radio. Non, je plaisante, bienvenue sur Europe 1. C'est fou, on ne peut plus rien dire dans ce monde. Les gens se crispent à la moindre remarque. C'est la mort du second degré. En tout cas, voilà, bienvenue sur Europe 1. Donc, il faudra quand même changer peut-être l'enseigne à l'entrée. Ça claque plus, CNews Radio, je trouve. Allez, aujourd'hui, changeons de sujet. Nous allons parler de la candidature de l'islamo-gauchiste. Il faut bien le dire, l'islamo-gauchiste Jean-Luc Mélenchon finit donc avec lui nos traditions, avec le projet de société qu'il propose, il faut bien le dire, une faucille tenue par une main de Fatma. Bref, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est finalement autorisée. Mais oui, on marche sur la tête, c'est autorisé. Bon, c'est sidérant, je sais. Ces gens sont fous, que voulez-vous que je vous dise. On va quand même essayer. Allez, posez un regard neutre sur cet événement avec notre panel d'éditorialistes de tous bords. Yvan Rioufol est là, Gilbert Collard, Florian Philippot et Philippe Bilger. Philippe Bilger, ça vous inquiète, mon cher Philippe, ce projet de Jean-Luc Mélenchon de voiler nos femmes en 2022?
Écoutez, vous avez raison, Pascal. Je précise, je suis de droite, mais que je suis gentil. Soyons francs, l'islame politique est gardée sur un syllabe qui arrive alors que je leur ai pas demandé de venir. L'islame politique a toujours existé. On se souvient de Faudel ou de Nicolas Sarkozy qui sollicitait le soutien de Faudel, ou même de Jacques Chirac qui est allé jusqu'à décorer Zinedine Zidane.
Oui, mais attendez, mon cher Philippe, Le projet de ces gens est une folie pure, disons-le. Et en plus, est-ce que les Français, je pose la question, est-ce que les Français sont prêts à supporter un tel changement de société, hein, franchement, à s'habiller avec des comment ils appellent ça, des chemises de nuit, avoir des barbes hirsutes qui ressemblent aux cheveux de Mathieu Béliard. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va demander, s'il vous plaît, on va demander son avis à Jacques Séguéla. Jacques, la candidature de Mélenchon, vous en pensez quoi? Mélenchon président. Qu'est-ce qu'il dit? Faut absolument aller voter au second tour des régionales. Oui. Il a 10 jours de retard, notre cher Jacques Séguéla. Demain, nous donnerons, tiens, la parole aux centristes, puisque nous recevrons Jordan Bardella. Et à l'instant, un texto de Daniel Guichard, merci, et qui nous écoute dans son camping-car. Il me textote à l'instant. On les emmerde, les cocos. Toujours ce sens de la formule, notre cher Daniel Guichard. Je salue.
Allez, tout. Merci Pascal Pro. Allez, on accueille maintenant la présidente du Rassemblement National. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour Mme Le Clercq. Bonjour à votre joyeuse Smala. Et bonjour M. Cameron. Bonjour docteur Eminem Bouteflika. On arrive. On est avec le tiroir.
On voudrait la liste de tous les surnoms du médecin.
Oui, oui. Oui, on se donne du petit surnom, M. Mandel. Oui. On se connaît bien maintenant et bonjour à toi. Joli métis. Oh. Alors comme ça, tu pars vers d'autres aventures, mais dis-moi.
Oh non, ça va.
Pourquoi tu me quittes? C'est parce que j'ai fait un mauvais score régional, c'est ça? Que tu détournes de moi? Je t'ai déçu, eh bien, pars mon beau matinalier des îles, pars sur ta pirogue pagaille sur la Seine vers ton garage normand. Peut-être que c'est mieux finalement, t'es peut-être pas fait pour du sérieux, toi et moi.
Non, mais c'est fini, les adieux déchirants, là. Non, c'est quoi ça? Déchirant. Les vaccinés se mettent en colère contre les non-vaccinés, car ces derniers seraient responsables des nouvelles restrictions en cas de quatrième vague. Est-ce que vous appelez à la vaccination, Marine Le Pen?
Oui et non. Oui et non.
Bah, c'est-à-dire?
Mais les non-vaccinés, les sceptiques, ceux qui n'écoutent pas le gouvernement en général, ils votent pour moi. Alors déjà que j'ai pris une branlée cette semaine, c'est pas pour m'en reprendre une en 2022.
Eh bien merci Marine Le Pen.
Merci à vous, merci à toi Joël Métis. Notre aventure s'arrête là, je suis un peu triste tu sais. Mais je sais que tu m'oublieras.
Tu m'oublieras, oui. Et puis on a un invité exceptionnel pour cette dernière matinale de Mathieu, c'est Charles Aznavour, il est en direct de là-haut, vous nous entendez Charles?
One, two, 1, 2, 1, 2, Paris-Bordeaux-Marseille, oui je vous entends. Oui, j'entends très bien. Maintenant, grâce à 5G, on capte vraiment partout.
Alors Charles, vous aviez un message pour Mathieu Béliard?
Je l'adore ce Béliard, c'est un bon gamin. On a passé 2 années magnifiques grâce à lui. Je voulais lui dire que quoi qu'il arrive, serai fort.
Three, four. Ah oui, d'accord.
Nous reverrons un jour ou l'autre à la radio ou à Pôle emploi. Prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je te promets, Mathieu, que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte. À Rio de Janeiro ou dans ton garage. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Oui, voilà. L'année finie, merci ma Julie. Allez, bon vent mon Mathieu, que Dieu te garde. Bon vent Chameroy, la Roumanoff, à Pascal Carp, bon vent à toutes les équipes, bon vent à tous. Et comme disent les crans, capitaine Breton, tenez bon la barre, ça va tanguer. Et un conseil, barrez-vous aux Seychelles, parce que comme je l'ai chanté, la misère est moins pénible au soleil. Hein, Cabrol?
Un grand bravo.
Et bravo à Nicolas Cantua, ses auteurs.
Et n'oubliez pas Philippe Carrivia, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Merci Nicolas, merci pour tout. Évidemment, merci Julie.
que je n'oublie pas non plus. Philippe Vandel est déjà là, Culture Média va démarrer dans un instant le programme, mon cher Philippe.
D'abord, c'est à moi de vous dire merci pour cet accueil et pour ces petits passages d'antenne tous les jours. C'était un plaisir. Aujourd'hui, émission spéciale de Culture Média, c'est la dernière de la saison. Quel plaisir de voir Nicolas Canteloup en vrai, en chair, en os. Le bilan de la télé, il s'est passé des choses. Le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut, le fiasco des droits du foot, une audience record, une cérémonie très spéciale. On sera avec Charles Decamp, spécialiste des médias ici chez nous, Europe 1, et Sacha Nokovic, qui travaille au journal L'Équipe, spécialisé sur les droits du foot notamment. Ensuite, direction Cannes, nous serons avec la comédienne Doria Tillier. C'est elle qui sera la maîtresse de cérémonie du festival. Et puis, elle a un court-métrage absolument formidable dont on va parler. Et puis, deuxième heure inédite, on va donner plein de conseils pour vous divertir tout l'été, pour ceux qui partent aux Seychelles ou pas. Et puis, Anissa Haddadi, Thomas Hill et Philippe Googler, c'est eux qui prendront l'antenne cet été de 9h, on va dire, jusqu'à 12h30. Ils seront là, ils vont nous raconter le programme.
Et Culture Média dans quelques minutes. Alors, vous savez, dans un studio de radio, il y a beaucoup de vitres et je vois énormément de visages derrière toutes ces vitres, plein de visages que je n'attendais pas forcément non plus. Alors ça y est, j'ai un peu les mains moites et la voix va trembler, il y a de la buée sur les lunettes, mais je voulais quand même garder un peu de temps pour vous dire au revoir, pour dire au revoir d'abord à cette matinale, à cette maison. Alors sans forcément citer de nom, parce que d'abord, pour être honnête, j'ai trop peur d'en oublier. Et puis vous l'avez vu, cette radio, c'est un collectif avant tout. Au revoir à une équipe formidable. Je suis extrêmement orgueilleux, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on a réussi à créer avec certains. J'ai commencé ici le soir avec d'autres, ça a pris en cours de route. De la confiance, beaucoup d'humour, beaucoup de photos de cuisine aussi. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Et pendant ce temps-là, il s'en est passé des choses. Il y a eu des rires, il y a eu des larmes, il y a eu des bébés, il y a eu des accidents de la vie. Ça crée des liens, entretenant ces liens, en particulier, là je le dis pour mes amis de la nuit. Alors j'avais déjà des amis ici avant d'arriver, mais comme c'est un petit milieu, vous pouviez vous en douter, mais j'en ai tellement plus en partant. Un accueil bienveillant, celui de la rédaction d'abord, dont j'ai toujours vanté les mérites. Je peux vous dire, les copains, que votre qualité professionnelle, eh bien, elle est saluée par tous ceux que j'ai eu la chance de rencontrer ces dernières semaines et qui travaillent dans d'autres maisons. Mais la rédaction d'Europe 1, je veux saluer surtout une valeur morale, son engagement. Parce que oui, parfois, il y a du découragement, parfois, mais jamais de relâchement. J'ai aimé apprendre avec vous et j'ai aimé parfois transmettre parce qu'on ne rajeunit pas non plus. Alors un mot tout de même pour souligner qu'il n'y a pas que la rédaction non plus dans une radio. Beaucoup ici aiment cette maison, y tiennent, s'y investissent et sans eux, bah, nous les journalistes, on n'arriverait pas à faire grand-chose, il faut quand même le dire. Il y a plein de gens, j'en ai marre du masque là, il y a plein de gens que j'aurais plaisir à revoir une fois parti à tous les étages. On va boire des verres, ça c'est promis. Alors je voudrais remercier, je voudrais avoir un mot quand même pour mes proches, pour ma vie privée, parce qu'il y a plusieurs cercles de proches qui ont vécu au rythme de ces 3 années à Europe 1. Et c'est vrai que tout le monde s'inquiète toujours de notre rythme de sommeil, jamais de l'éveil de l'entourage. Grandir, c'est choisir. Et parfois, choisir, c'est difficile. Là, on le vit tous en ce moment. C'est toujours personnel. Alors, je voudrais dire bon courage à tous. À tous ceux qui partent, comme tous ceux qui restent. Quoi qu'il en soit, vous avez du pain sur la planche. Je veux absolument avoir un mot pour la bosse que je ne vois pas parmi tous ces visages. Je ne garde que ta sincérité, ta disponibilité, ton écoute. Et le mieux serait que tout le monde le sache ici. Ok, ça va mal. Ok, c'est une vraie galère ce qui se passe ici en ce moment à l'intérieur. Mais croyez-moi, je le pense, ce serait bien pire sans elle. Alors quand même, est-ce qu'à un moment, il va dire un mot des auditeurs ? Bah, il n'y a que vous en réalité. J'ai déjà utilisé les mots confiance, bienveillance, humour. Alors je réponds pas forcément, mais je vous lis toujours et vous m'accompagnez tous les jours. Ces dernières semaines en particulier, vos messages ont été un vrai carburant. J'ai adoré vous parler à l'antenne. Gardez bien en tête que tout ça, tout là, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez au bout du bout du bout du bout, tout ça, c'est pour vous. Alors pour finir, simplement un grand merci, il n'y a que ce mot-là. N'oubliez pas, on est tous beaucoup plus libres qu'on veut bien le croire. Ça, c'est important. Je souhaite bon courage à mon successeur. Il a une chance inouïe de vous rencontrer. Et puis à ceux qui seront au matin, dès demain, dès lundi, le monde aura changé, il faut bien le raconter.
Un peu avec nous.
Je reste rien prévu.
On a un petit message à vous faire passer.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est Hélène. Hélène Zellani, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé dans un micro. Là, je ne pouvais pas rater l'occasion de te dire au revoir, Mathieu, en mon nom, mais surtout au nom de toute l'équipe de la matinale. Il y a 3 ans, tu t'en souviens évidemment, quelques semaines, tu faisais déjà l'unanimité avec cette émission entre 18h et 20h qu'entre nous on surnommait le grand bordel du soir. Avec toi à la matinale, on a écouté le monde changer, y compris dans ton garage. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu nous as gratifié de photos mémorables en combinaison de jardinier. Point très important, avec le temps, nous avons pu observer ta transformation capillaire du jeune homme prépubère à la mèche parfaite, au bûcheron sorti du fond de ses bois. Chaque jour, on a pu admirer ta gentillesse, ton professionnalisme, ta modernité, ton humilité, ton rire communicatif et cette capacité à nous rassembler et à nous porter tous de bon matin. J'espère que vous aussi, vous les auditeurs, vous avez ressenti la même chose de l'autre côté du poste. J'en suis convaincue. Mathieu, un seul mot pour terminer. Merci.
J'espère qu'il y aura des photos sur les réseaux. Il faut que vous voyez tous ces gens, il faut que vous voyez tous ces visages. Alors encore masqués, mais il faut que vous voyez un peu cette maison. Elle vit, elle vibre. Et ça, c'est important. Merci à tous. Merci beaucoup.